RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, deuxième heure des GG. Vous avez raté la première, vous avez les podcasts à votre disposition avec Barbara Lefebvre, Emmanuel Devilliers, Abel Boy. Podcast, vous avez l'émission en elle-même et puis vous retrouvez les petites discussions qu'on peut avoir pendant la pause pub. Et là, puisqu'on parlait de l'antivirus, ce sont les souvenirs des GG du Covid. Je vous conseille les souvenirs d'Emmanuel Devilliers.
Oui.
C'est succulent et gustatif. Avec Barbara, avec Emmanuel et Abel Boyi, je propose, et avec vous au 32-16, que l'on s'intéresse maintenant à un film qui va sortir au cinéma demain. Ce film s'appelle L'Abandon. Il retrace les 11 derniers jours de Samuel Paty, le professeur assassiné par un terroriste d'origine tchétchène.
J'ai jamais rêvé d'être un héros. Mais que mes cours éveillent une vocation, ça oui, j'avoue, j'en ai rêvé.
Bonjour, monsieur Paty.
Aujourd'hui, on va faire une étude de cas. Liberté d'expression, liberté de la presse. Ça vous dit quelque chose?
C'est Charlie Hebdo?
Exactement.
Pas de blague aujourd'hui?
Bon, allez, une blague pour Drissou.
Vincent Garinc, c'est le réalisateur. Voilà ce qu'il dit. J'ai simplement essayé de reconstituer les faits, d'être au plus proche de la vérité, sachant que, malheureusement, Samuel Paty n'est plus là pour témoigner.
Oui, c'est ça qui est très intéressant dans ce film et qui en fait, à mon avis, toute sa force, c'est que ces 11 derniers jours de Samuel Paty sont racontés d'une façon très factuelle, d'ailleurs. Hein. C'est ce que dit effectivement le réalisateur. On a essayé d'être au plus proche de la réalité. Donc, il y a un respect scrupuleux au mot près des faits tels qu'ils se sont déroulés, avec les acteurs de ce drame, donc bien sûr Samuel Paty, mais aussi la directrice de l'établissement, mais aussi bien entendu ceux qui ont accusé à tort Samuel Paty d'avoir stigmatisé les musulmans, à commencer par cette jeune fille qui a menti, son père, le prédicateur salafiste qui a médiatisé cette affaire, etc., etc. Ça a été fait en collaboration avec Michaël Paty, la sœur de l'enseignant. C'est tiré du livre de Stéphane Simon, Les derniers jours de Samuel Paty, qui est d'ailleurs coproducteur du film. C'est extrêmement bien joué. Et justement parce que c'est sobre, c'est juste, c'est précis, c'est particulièrement touchant. C'est vraiment un film qui touche au cœur, parce que c'est un engrenage infernal qui ne dure que 11 jours. J'avais oublié finalement que l'affaire Samuel Paty n'a duré que 11 jours.
Qu'est-ce que vous en dites, Abel, Emmanuel, Barbara? Abel.
Bon, on en discutait avec Olivier avant le début de l'émission. Moi, c'est un film qui m'a bouleversé. Honnêtement, j'ai eu du mal à m'endormir. Le rappel de ce temps très court, ce système qui a abandonné Samuel Paty, il y a la chose qui m'a marqué, parce que moi, je crois beaucoup aux petits signes du destin. Sans spoiler le film, peu avant le drame, il est au commissariat et les téléspectateurs verront, on lui fait signer un document où en fait il est accusé d'une raison qui n'a rien à voir non seulement avec ce qu'il a fait, mais qui n'a rien à voir avec les accusations qu'il y a en plus sur Internet. Et ce moment, il est extrêmement fort parce que il dit au policier, mais c'est pas ça. Et on lui répond, vous inquiétez pas, la procureure va corriger. Et c'est comme si le système lui fait signer son arrêt de mort. Ce moment, il est extrêmement fort. Comme tu dis, c'est fait de façon très immersive. On s'y croit vraiment. On ressent les coups et on ressent la destruction psychologique, en fait. La pression psychologique, le tsunami des réseaux sociaux. Comment un mensonge et même la menteuse se retrouve dépassée par son mensonge. Et je veux, pour finir mon propos, je veux vraiment que les politiques ne nous gâchent pas ce moment. Qu'un extrême qui va s'amuser à stigmatiser les musulmans, que l'autre extrême qui joue à la société des amis des Arabes et des Noirs va s'amuser à les défendre. Quand on voit les acteurs et le jeu des acteurs de Samuel Paty, au moindre élève, la diversité, c'est la France qui rend hommage à Samuel Paty au travers de ce film et au travers de la diversité des acteurs. Donc moi, je demande vraiment aux politiques de ne pas faire de polémique et de nous laisser savourer ce film qui, je pense, doit être montré à tous les élèves de France.
Alors je confirme que c'est un très très gros travail. J'ai eu l'occasion de fréquenter des tournages et de participer à des films de cette nature. Il est particulièrement réussi, très 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 bien joué. C'est haletant. Moi j'étais peu enthousiaste à regarder ce film. Et en réalité...
Oui, on est pris par le sujet.
On est pris d'un bout à l'autre, en particulier les 50 premières minutes. C'est quelque chose d'incroyable. Il n'y a aucun temps mort. ce qui est le signe de la réussite d'un film, et c'est un fait très rare dans le cinéma, c'est très très difficile. Vraiment, on sent une authenticité. Alors après, si on dit un mot du fond, évidemment, cet assassinat est odieux. Il n'y a pas de mots pour l'horreur et l'injustice. Et on s'associe à la peine continue de la famille et de tous ceux qui déplorent dans l'environnement du défunt cette mort, paix à son âme. En même temps, le film est assez intransigeant, car il explique, je ne dirais pas légitime, mais il explique le ressenti critique de la communauté musulmane. Et il y a des mots qu'il faut souligner quand des personnes choquées au départ de l'affaire disent « Pourquoi il nous montre ça à nous, de notre religion ? Il doit arrêter d'éduquer les enfants, il doit aller s'éduquer lui-même. » Personnellement, moi je suis catholique, pratiquant, je ne m'en cache pas. Et je pense que dans les tensions actuelles des différentes confessions dans notre pays, il faut être prudent dans l'exercice critique des autres religions. Et je pense, à titre personnel, tout simplement, qu'il faut respecter les différentes religions. Or, le drame injuste et scandaleux qu'a subi M. Paty, c'est que sa démarche d'enseignement a été perçue comme une transgression à ce respect.
Il faut citer l'acteur qui joue
Justement, Samuel Paty, je voulais parler de lui, Antoine Reynards, parce qu'il joue particulièrement bien, oui. Samuel Paty, d'ailleurs. La sœur de Samuel Paty elle-même a dit à quel point elle retrouvait des éléments de son frère dans la gestuelle de ce comédien, qui est tout en sobriété et tout en simplicité, comme d'après ce qu'on a compris de Samuel Paty, comme il était dans la vie. Ne t'inquiète pas, Emmanuel, les enseignants savent très bien ne pas heurter les sensibilités des élèves. On respecte, nous, dans l'école laïque, on n'a pas à connaître de la religion de nos élèves. Donc si certains se sentent fragiles dans leur foi, excuse-moi de te le dire assez brutalement, c'est pas notre problème. C'est pas mon problème de savoir qui dans la classe est musulman, qui est juif, qui est catho, qui est athée, c'est pas mon souci. Moi je fais un enseignement et je n'ai pas à me mettre au diapason des potentielles susceptibilités, des imaginaires sensibilités des uns et des autres.
Oui, mais je dois t'interrompre le film montre le problème de la désignation des musulmans.
Non, mais justement, le film montre très bien aussi que la plupart des élèves de confession ou de sensibilité musulmane ne se sont pas sentis heurtés, ne sont pas sortis, ont regardé les caricatures et ont compris le sens de l'exercice qui leur était demandé, c'est-à-dire de vivre dans un pays où le délit de blasphème n'existe pas. Et donc, il y a eu effectivement une élève qui est une menteuse et qui était une élève problématique, qui a fait toute une histoire, et d'autres élèves qui étaient musulmans de culture apparemment, qui l'ont démenti, qui ont dit qu'elle était une menteuse. Donc ça a bien montré quand même dans ce film que, heureusement, on peut compter quand même sur le libre arbitre aussi de nos élèves, et que c'est ça l'école de la République, c'est les éveiller à cette conscience et à leur libre arbitre. Maintenant, moi, je voudrais juste dire, effectivement, vous avez tout dit sur ce film, c'est un très bon film. Je pense qu'il doit être montré aux élèves de 4e et de 3e, parce que c'est un point très important, c'est l'âge en plus où ces questions sont au programme en éducation civique. Maintenant, concernant l'institution scolaire, parce que c'est quand même important.
Il faut parler du rôle de l'État.
Il y a un avant et un après. Aujourd'hui, l'institution scolaire ne se comporte plus du tout de la même façon. J'en ai fait moi-même l'expérience. Il y a une très bonne réactivité. On est très vite protégé. La protection fonctionnelle, Monsieur Paty a été obligé d'en faire la demande administrative. Aujourd'hui, on vous la donne sans même que vous en fassiez la demande. La protection policière est beaucoup mieux faite. Donc, je crois que l'institution quand même scolaire, avec l'affaire Paty et Dominique Bernard en octobre 2023, il y a beaucoup plus de réactivité et on met moins en jeu la parole de l'enseignant comme ça a pu être fait, parce que ça a été quand même fait au moment de Samuel Paty. Le référent laïcité lui a quand même demandé à un moment de s'excuser. Et ça, il faut jamais s'excuser quand on a fait son cours, et Monsieur Paty a fait son cours, il avait aucune raison de s'excuser.
Nous sommes avec Stéphane Simon, coproducteur du film L'Abandon et auteur du livre Les derniers jours de Samuel Paty. Bonjour Stéphane Simon.
Bonjour à vous.
Merci de prendre quelques minutes pour nous, pour les grandes gueules. Tiens, une question qui relaye un peu ce que disait Emmanuel de Villiers. Est-ce que ce film sera montré dans les écoles ou pas? Est-ce que vous le souhaitez?
Alors nous, on le souhaite évidemment ardemment, parce que c'est une leçon pour réfléchir justement sur ce qui est arrivé et en tirer des leçons. Et après, il a été vu par le ministre de l'Éducation nationale actuel, qui l'a trouvé, qui a mis deux minutes avant de retrouver son souffle, et tellement il a été brassé. Je lui fais une petite indiscrétion en disant cela, mais il a été extrêmement brassé par le film. Lui-même a trouvé que c'était œuvre utile. Alors on l'espère, on n'a pas, à l'heure où je vous parle, on n'a pas d'engagement formel encore que ce film sera montré. On l'espère de tout notre cœur. Je pense que c'est une manière de rendre sa dignité aussi de professeur à Samuel Paty et de faire plaisir à la famille que d'estimer qu'il faut montrer ce film comme d'autres films importants étaient montrés comme La Rafle il y a quelques années aux scolaires. Ce sont des films qui sont là pour aider à comprendre ces moments charnières de notre histoire. Et évidemment, c'est important que les élèves qui sont en apprentissage sur ces questions-là puissent le voir.
On a souvent reproché au cinéma français de pas justement s'emparer des sujets d'actualité contemporains, parfois polémiques. On disait c'est formidable, les Américains, ils ont fait des films très critiques sur la guerre au Vietnam tout de suite dès les années 70. Là, je trouve que ce film montre qu'au contraire, en France, on est capable de le faire avec une approche très factuelle. Alors c'est peut-être ça qui est intéressant aussi à souligner, c'est qu'on aurait pu en faire quelque chose de spectaculaire, un peu démago et autres. Et au contraire, c'est très sobre. Et c'est justement parce que c'est sobre que c'est percutant et très touchant, bien entendu, parce que le destin tragique de Samuel Paty ne forcément nous touche tous.
Bah écoutez, oui, c'est des choses que j'entends actuellement. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, ça nous change des comédies françaises qui sont un peu nombrilistes et qui s'emparent pas des sujets un peu
Il a été compliqué à monter, ce film ?
Oui. Pas tant que ça. Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Ouais. Nous, on s'est entourné de beaucoup de prudence parce que pour nous, il était important de ne pas troubler non plus le temps judiciaire. Mais ce projet, il a démarré fin 2022. Et vous connaissez le temps du cinéma, il n'y a pas film qui se monte en moins de 3 ans. Il faut dire et saluer la volonté de tous ceux qui ont cru en ce film dès le départ. Par exemple, UGC, sa patronne, Brigitte Mazzioni, en tant que dirigeante d'UGC et également citoyenne, a tenu à faire ce film, mais à un point qu'il est rare de voir. C'est-à-dire qu'elle nous a vraiment demandé de signer ce film ensemble et on en était extrêmement touchés. Mais aussi les comédiens, on n'a eu aucun problème. Ouais. On nous avait promis des tas de difficultés pour recruter les élèves, des difficultés pour recruter ceux qui allaient jouer la communauté musulmane de Conflans-Sainte-Honorine.
Ils sont tous très bons d'ailleurs.
Pas du tout. Oui, mais pas du tout. Ils ont tous participé avec bonheur. Au début, on était très prudent. On demande pour faire le premier, on va dire une première sélection d'acteurs. On ne disait pas quel était le thème, et ensuite on abordait avec ceux que l'on sélectionnait le thème très précis du film. Eh bien, tous nous ont dit « Ah mais non, mais c'est formidable, mais tant mieux, allons-y ». On n'a pas eu de question. Et c'est ça qui nous a beaucoup, convaincus qu'on était dans quelque chose d'important.
Emmanuel Berco est d'ailleurs très bien en directrice de cet établissement.
Si ce n'est pas confidentiel, quel est l'ordre d'idée de budget de votre film ?
Bon, je pense que ce sera publié dans quelques mois. Alors le film, il est autour de 5 millions d'euros. C'est ce qui en fait un film intermédiaire, c'est-à-dire c'est pas un téléfilm à 2 millions d'euros,
films intermédiaires.
Vous voyez, vous souvenez de La Mouroufle l'année dernière, à la même période à Cannes, on était à un budget, je crois, à 38 millions d'euros.
Et vous attendez quoi justement de ce film qui est projeté à Cannes, parce que c'est pas rien comme exposition, c'est le film d'ouverture, c'est ce soir, alors c'est en compétition.
Non, c'est demain soir.
Qu'est-ce que vous attendez de cette projection?
C'est demain soir. Voilà. Alors d'abord, il faut que vous sachiez une chose, c'est que le film a été tout de suite la billetterie du festival nous a dit hier que le film était très 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 demandé, qu'ils avaient évidemment plus le moindre place. Bah pour nous, c'est important parce que c'est le monde du cinéma justement qui se retrouve. Donc c'est important de montrer qu'on est capable de s'emparer de sujets aussi forts. C'est important aussi de voir comment celui du cinéma va réagir par rapport à ce film. Nous, on espère qu'il va être bien accueilli, on n'en sait rien après tout. Il a été très bien accueilli par les professionnels, les journalistes qui sont venus le voir, qui sont restés peu ou pas à l'affaire. Mais comment va réagir ce milieu du cinéma, c'est encore à découvrir demain soir.
Très rapidement, Simon, je voudrais vous dire merci pour ce film. Parce que sans en utiliser la technique de façon officielle, vous brisez le quatrième mur tout le temps. C'est pour ça qu'on est percuté.
C'est quoi le quatrième mur?
Le quatrième mur, c'est par exemple, tu vois, dans le film Deadpool, c'est quand l'acteur, il se tourne vers la caméra, il s'adresse au spectateur qui est derrière son écran. C'est ça qu'on appelle le quatrième mur qui est brisé. Et ce film, sans en utiliser la technique, ben, en fait, ça transpire tellement de réalisme, en fait, on est transpercé et à chaque dysfonctionnement, parce que l'escalade est tellement mise, eh ben la question nous est posée à chaque fois.
Mais
donc un grand merci tout simplement.
C'est important aussi bah, c'est dans le film.
Pardon, mais je voudrais quand même remercier avant tout le réalisateur parce que
Vincent Garin
qui a l'habitude de travailler sur des faits de société, a l'habitude de la matière judiciaire. Il faut savoir que tous les dialogues sont inspirés des procès-verbaux et que nous sommes allés à tous les étapes.
Sans faire sa véracité. Oui.
C'est-à-dire le procès des mineurs, on y était à travers Michael Paty qui nous racontait chaque jour qui s'est passé. Ensuite, on a eu le premier procès. Des adultes et tout ça nous a permis de nourrir le film. C'est une étape supplémentaire. Mmh. Il est très riche le film parce qu'il est très documenté.
Mais c'est vrai.
Barbara. Je pense qu'il y a aussi un point très important dans votre film, c'est que vous n'êtes pas appesanti sur le profil et l'itinéraire de l'assassin, que je ne nommerai pas, parce que je pense que maintenant il faut arrêter de donner leur nom à tous ces gens-là. Parce que je me rappelle quand même que sur les attentats de Toulouse, on a beaucoup trop parlé de l'assassin, de son itinéraire, de sa famille. Voilà. Là, on s'oriente beaucoup plus sur cette famille, sur Sifrioui, le fondateur du collectif Cheikh Yassine, qui était un agitateur de la sphère salafiste, fiché S, etc. Et montrer bien comment un mensonge conduit à une rumeur et que les réseaux sociaux font monter cette rumeur. Et le film, il est vraiment, centré là-dessus, sur cet engrenage. Et c'est pour
infernal,
ça que, l'assassin, il est en nombre quasiment dans le film. Et on se centre pas sur lui parce que lui, il n'est finalement que la touche finale de tous ceux qui, avant, sur les réseaux sociaux, ont alimenté la haine contre notre collègue et qui ont armé ce bras-là. Et ce bras-là, il est anonyme. Et au moment où on parle, il y a des bras anonymes qui sont armés par des gens qui ont la haine sur les réseaux sociaux. Et ça, ce film-là, il le montre. Et bravo pour ça, Stéphane Simon.
Merci d'avoir été avec nous, Stéphane. Merci beaucoup.
Bonne journée à vous. Merci.
Et longue vie au film.
Le film sort demain.
L'abandon. Dans un instant, on en parlera avec Fred. Important, dit-il, ce film sur la mémoire. Est-ce que ça a vraiment la mort de Samuel Paty, puis après de Dominique Bernard, parce qu'il faut aussi rappeler ce qui est arrivé à Dominique Bernard. Est-ce que les choses ont changé dans l'éducation nationale? Est-ce que, comme le disait Barbara, maintenant on fait bloc derrière les enseignants quand survient un problème, un souci? Venez en discuter avec nous, L'abandon, le film qu'il faudra voir. Il sort demain au cinéma, Les derniers jours de Samuel Paty. Vous êtes avec Les Grandes Gueules, il est 10h20, on vous attend au 32-16, vous êtes sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Les Grandes Gueules sur RMC et RMC Story avec Emmanuel Devilliers, Abel Boyer, Barbara Lefebvre. On parle de ce film L'Abandon qui est présenté à Cannes et qui sort demain au cinéma. Ce sont les derniers jours de Samuel Paty. Alors ça nous interroge de nouveau. C'était 2020, Samuel Paty.
2020.
Ça va faire 6 ans cette année. Et puis derrière, après Samuel Paty, malheureusement, il y a eu Dominique Bernard. C'est Fred qui veut en parler avec nous. Je remercie d'avoir patienté. Il est graphiste dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Fred.
Salut les GG.
Bonjour. Est-ce que vous irez le voir ce film, oui?
Ah oui, évidemment, oui.
Pourquoi évidemment?
Bah parce que alors c'est pas pour le côté voyeur aller voir le drame ou quoi, c'est parce que moi c'est pour ça que j'ai appelé, c'est que c'est un événement dramatique. Arriver dans des circonstances qu'on veut pas. Il y a tellement à dire là-dessus. Tout à l'heure, je vous entendais que certains se posent la question pour savoir s'il devait être diffusé ou pas. Dans les écoles, je crois, hein, si je me trompe pas.
Oui.
Moi, je pense que oui. C'est pardon de le dire comme ça, mais c'est l'occasion, quoi. C'est l'occasion. Mmh. Merci au réalisateur d'avoir fait le film, à l'équipe, parce que c'est ce que je disais dans le message que je vous envoyais tout à l'heure. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est que souvent on parle de drame et puis il n'y a pas d'effet derrière. Enfin, ou en tout cas, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'effet derrière. Là, c'est trop grave ce qui s'est passé. C'est pas la première fois. On sait qu'on a un problème avec la compréhension des choses. Parfois, souvent, chez les jeunes, c'est l'occasion d'en parler, c'est l'occasion de le mettre sur la table, le film, et que ça n'arrive plus, que ceux qui se trompent comprennent pourquoi et qu'on avance. Je veux dire, enfin, je pense qu'on est tous d'accord. Moi, quand j'ai, alors en plus, l'anecdote, c'est que je suis un ancien conflanais. Et j'ai habité, voilà, j'ai fait passer toute ma jeunesse là-bas et au bout de la rue du drame. Donc on se sent toujours un petit peu plus concerné. Mais plus jamais, quoi, plus jamais. Donc la question maintenant, c'est comment on fait pour que ça n'arrive plus. Donc il faut évidemment en parler. Et je crois que ce film, c'est l'occasion de. Donc oui, il faut le diffuser. Oui, il faut en parler. Oui, etc. Je voudrais pas rajouter un drame au drame. Pour moi, le deuxième drame, ça serait que une fois de plus, il ne se passe rien derrière. Qu'on n'ait pas de suivi, qu'on n'ait pas de retour, qu'on n'ait pas d'effet de quoi, enfin, vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et voilà, moi, c'est un peu ce qui m'inquiète. Ça serait un monde.
Ce que dit Barbara, qui travaille dans l'institution éducation nationale, ce que nous dit Barbara, c'est que quand même on a tiré les leçons des défaillances de la prise en charge de Samuel Paty. Parce que ce qui est frappant dans le film, c'est que alors Samuel Paty, il a quelques collègues qui le soutiennent, la directrice au début elle a du mal, puis finalement quand même elle se range à ses côtés. Mais c'est vrai qu'en même temps il y a des profs qui sont très critiques, très hostiles à son égard. Et puis surtout l'institution ne le protège pas, pas de protection policière. On a un référent laïcité. Alors on voit aussi tous les hauts fonctionnaires. Quand on parle souvent de ces fonctionnaires qui sont dans des bureaux, etc. Exactement. Là, on les voit. Hein. Donc, tous ces fonctionnaires sont là dans un en faisant voilà en se rendant pas compte de ce qui se passe. Alors est-ce qu'on a pris la mesure des choses et est-ce qu'aujourd'hui un Samuel Paty, si ça lui arrivait dans sa classe, il serait beaucoup plus soutenu par son employeur, l'État?
On peut jamais savoir aussi.
Ah oui, oui, bien sûr.
Mais bon, mais...
On peut jamais savoir aussi le type de chef d'établissement que vous avez parfois ça dépend aussi. Il y a encore des chefs d'établissement qui sont dans le pas de vague, il y a encore des collègues qui pensent qu'ils vivent dans le monde des bisounours, mais vraiment moi je sais que j'ai vraiment vu un changement. En plus moi je m'étais arrêtée d'enseigner pendant quelques années et quand je suis revenue en 2023. J'ai pas du tout envie de raconter ma vie, donc mais je veux juste te dire que j'ai eu à être exposée à des menaces, etc. Moi, j'ai été protégée par l'institution, mon collège aussi. Donc je sais ce que ça peut être, même si c'est pas moi. J'étais plus préparée que Samuel Paty parce que j'ai une vie publique. Donc voilà, je pensais bien qu'un jour ça finirait par pouvoir constituer un danger. Moi, j'ai vraiment vu une réactivité très rapide. Très efficace de l'institution, de la préfecture, une prise en compte de la réalité du danger et le soutien parfois silencieux, mais ça suffit, on n'a pas besoin d'être qu'on nous fasse des câlins, le soutien de la direction, le soutien des collègues. Moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui a changé dans la mentalité des profs aussi. Quand je suis revenue à l'éducation nationale, j'ai quand même vu que depuis l'affaire Samuel Paty, il y a beaucoup d'enseignants aussi qui ont bien avancé sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire que longtemps, sur ces questions de l'entrisme islamiste, etc., certains restaient encore quand même dans le monde des bisounours. Je pense que là, ils ont quand même pris conscience que ce qui alerte depuis 20 ans, et moi, depuis les territoires périphériques de la République, on alerte sur ce danger de l'islam politique qui vient d'abord s'attaquer à nos élèves de culture musulmane pour essayer de les retourner, et que tout le travail de l'institution républicaine, c'est justement au contraire de nous arrimer tous collectivement aux valeurs et aux principes républicains qui sont ceux de la laïcité et de la négation même de justement d'abord savoir qui vous êtes en termes d'identité religieuse et ethnique. Donc moi, je pense quand même qu'il y a eu une évolution. Plutôt positive.
Fred, je vous remercie d'avoir été avec nous, Fred. Merci d'avoir pris la parole dans les GG des Pyrénées-Orientales. On va dans la Marne avec Jean-Claude, dont la femme est professeure d'histoire-géographie. Jean-Claude, bonjour, parce que c'est sur la base de ce qui est arrivé à votre épouse, vous vouliez témoigner.
Oui, voilà, en 6 mois, elle s'est fait agresser 2 fois. La première fois, elle a été victime d'un photomontage où on faisait d'elle l'apologie d'Hitler et du nazisme. Elle l'a très mal vécu. Excusez-moi, j'en parle, je suis très ému. Elle a très mal vécu. Ça a été terrible pour elle. Il n'y a eu aucun soutien. Alors si, il y a eu un soutien administratif, je dirais, où on lui a dit fais ça. Voilà. Mais il n'y a eu aucun soutien humain. C'est-à-dire que personne n'est venu la voir, personne, à part ses collègues. Elle a été très bien entourée au niveau de ses collègues, mais au niveau de la hiérarchie, il n'y a rien eu. Il ne s'est rien passé. Et là, dernièrement, elle s'est fait agresser encore par des parents, au mois d'octobre dernier.
Sur quel motif ?
sur parce que elle n'était pas à l'écoute de ses de leur fils.
Elle est prof d'histoire géo aussi?
Oui, oui, elle est prof d'histoire géo aussi, ouais. Et je vous avoue que depuis j'ai peur et j'ai peur pour elle. Voilà.
C'est comment elle le vit elle?
Très mal, mais elle aime son métier et quand on l'associe à l'apologie des clercs, la semaine dernière, elle a emmené les gamins au Struthof et c'est elle qui a fait la visite du Struthof. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves, la personne qui avait fait le, qui avait dicté le photomontage, a été mise en sursis. Il y en a un autre qui a été viré, mais ça faisait au moins la 25e faute qu'il faisait. Et le dernier, parce qu'ils étaient trois, le dernier n'a rien eu.
Et donc il manque, il y a
oui, il y a est-ce qu'elle a porté plainte? Elle a porté plainte. Et
oui,
est-ce que
oui,
la chef
d'établissement
et la chef d'établissement a porté plainte aussi?
Alors l'établissement, on ne sait pas, on ne sait rien parce que derrière on n'a rien su. Nous, on a porté plainte. C'est moi qui l'ai emmené porter plainte parce qu'elle ne voulait pas porter plainte au départ.
Ah bah il faut pourtant.
Et donc on a porté plainte. Derrière, moi j'ai envoyé une lettre au ministre en expliquant les choses. Alors j'ai eu tout un retour administratif qu'il y avait eu ça, il y avait eu le mail de je sais plus qui, là, le responsable académique, le mail du recteur pour l'associer à la douleur, machin, mais on s'en fout de ça, c'est de l'humain.
Ouais, bien sûr.
Et je leur ai répondu, moi, derrière, parce que j'ai répondu au ministre, derrière, j'ai pas eu de réponse de ça, j'ai répondu, mais je dis, mais votre chaîne, elle a été convoquée chez la Toubib au mois d'août, c'est arrivé au mois de mai, elle a été convoquée chez la Toubib du rectorat. Quand elle est arrivée chez la Toubib du rectorat, elle lui a dit, mais pourquoi vous êtes là, madame?
Il y a eu un événement déclencheur de ce harcèlement numérique?
Oui, parce qu'elle s'était opposée à une gamine.
Mais Jean-Claude, il a raison,
c'est
pardon.
Pas
mais
encore une fois, d'une gamine.
Non, mais le pas de vague, il existe. Et c'est exactement les sujets sur lesquels je voulais parler. Il y a une partie de notre jeunesse qui est fascinée par Tonton H. D'accord? Et H, c'est pas Henri, c'est Hitler. Des jeunes qui font l'apologie d'Hitler, qui continuent d'insulter les profs. Il y en a énormément. Et il y a aussi le pas de vague quand vous avez des témoignages de certains parents qui parlent de choses qui peuvent se passer dans certains établissements, notamment en ce qui concerne les attouchements sexuels. Le pas de vague, il existe encore. Donc il y a des choses qui ont avancé, bien entendu, mais vous avez énormément de témoignages, que ce soit de la part de profs et de professeurs comme l'épouse de Jean-Claude ou de la part de parents qui montrent qu'on est encore très loin du compte.
Merci à Jean-Claude et on ne peut que souhaiter bon courage à votre épouse dans cette épreuve qu'elle traverse. Donc c'était notre discussion sur le film L'Abandon qui sort demain au cinéma sur les derniers jours de Samuel Paty.
Allez le voir.
Dans un instant, on va s'intéresser à la politique. La politique avec ce qui se passe à droite, les tractations à droite hors RN. Et qui se positionne pour être le meilleur candidat de la droite? Est-ce que c'est Édouard Philippe? Est-ce que c'est Bruno Retailleau? Venez en discuter avec nous au GG, au Grande Gueule, en direct sur RMC, RMC Story. Venez en discuter au 32-16. Il est midi, il est 11h25.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
1, 2, 3, 4. Everybody. Hey, hey, hey. Everybody.
C'est notre ami Louis Gerbier de l'équipe des GG qui nous a fait une petite production, un petit montage avec Emmanuel Macron et les Backstreet Boys. C'était ce qu'a fait Emmanuel Macron hier à l'université de Nairobi. Bien vu, Louis. Il est 11h20, je vous propose qu'on parle politique et on va regarder un peu ce qui se passe à droite en ce moment, hors Rassemblement National. Parce que là, ça s'agite du côté d'Horizon. On va essayer sûrement de court-circuiter la candidature de Bruno Retailleau, si l'on en croit des indiscrétions de papier, parce que la bataille maintenant est lancée du côté des LR et Horizon.
Il y a deux candidats de droite déclarés hors RN, Bruno Retailleau et Édouard Philippe. Édouard Philippe qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez noté, ce week-end a fait attention à bien rappeler qu'il était droite, hein, parce qu'il a bien l'intention effectivement de récupérer les LR et tous ceux qui ne veulent pas voter Bardella. Donc on voit à peu près quel est son espace, et donc c'est malheureusement malheureusement, c'est aussi l'espace de Bruno Retailleau. Donc il y a deux candidats pour un seul électeur, en fait, si j'ose dire. L'électeur de droite étant pour certains très, enfin certains électeurs de droite sont plutôt intéressés par Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Donc Édouard Philippe ou Bruno Retailleau, quel est le meilleur candidat à droite?
Alors, Emmanuel.
Il faut quand même émettre des nuances. Déjà, il faut réintégrer dans le périmètre, même si son score pronostiqué est faible, Nicolas Dupont-Aignan, qui a fait acte de candidature officielle et qui est assez...
On pourra même rajouter à Éric Zemmour, qui sera sans doute candidat.
Oui, mais qui est sur un tout autre positionnement. Dupont-Aignan est quand même, dans cette candidature qu'il présente comme irrévocable, sur le même périmètre. Mmh. Mais si on nuance, Édouard Philippe est un candidat de centre-droit, Bruno Retailleau est un candidat plus résolument à droite. Il faut ajouter la question du procès du RN, dont on aura le rendu de la procédure d'appel le 7 juillet, avec une probable inéligibilité de Mme Le Pen, qui n'est pas certaine, mais qui est assez probable, au dire des exégètes de la justice, et donc une candidature de substitution du jeune président Jordan Bardella, avec son arrière-plan personnel aussi maintenant qui participe de cette candidature avec la compagne qu'il a présentée, qui est elle-même encore plus jeune. Par conséquent, Dupont-Aignan, à mon avis, sera amené à se retirer à terme, parce qu'il s'est déjà présenté, et quand on fait moins de 5%, ça pose un problème économique majeur, et au-delà de son sens de l'intérêt général, qui est indéniable, et de sa volonté de ne pas faire échec à l'élection présidentielle. Et quant à Édouard Philippe et Bruno Retailleau, l'élément important, et qui est assez nouveau, et qui là aussi renvoie à l'intérêt général, à une conscience politique qu'il faut saluer, c'est que ils disent quand même, de manière assez explicite, qu'on s'achemine vers un départage fin 2026 ou début 2027, au travers des sondages, alors qu'est un départage très très imparfait, puisque les sondages, par définition, sont une température imparfaite avec ce qu'on appelle des marges d'erreur, mais tout de même, on a cet élan vers une unification de la candidature à tant de droite que du centre-droit, ce qui est un facteur rassurant pour les Français, je pense à tous ceux qui nous écoutent, dans la mesure où on souhaiterait que cette candidature soit présente au second tour, sans préjuger du résultat lui-même du second tour, mais il faut que cette sensibilité qui est majoritaire en France soit présente au second tour. Et évidemment, éviter ce que personne ne veut, c'est-à-dire le duel RN-La France Insoumise.
Pierre veut intervenir dans les GG, il est de l'Hérault, Pierre Paysagiste. Oui, bonjour Pierre.
Bonjour. La grande équipe. Bonjour.
Alors Pierre, Philippe ou Retailleau?
Moi, quitte à choisir, aucun des deux, je pense. Ah bon moi j'ai 30 ans, j'avoue, mes respects à M. Devilliers, je sais qu'il est très ami avec M. Retailleau. Et l'amitié, la fidélité en amitié, c'est important, donc déjà respect. Mais sinon, comme je disais, M. Philippe, c'est pour moi, c'est le centre, hein, c'est pas la droite. Hein. On est clairement sur le centre de la République des copains. Hein. Enfin, on continue avec le même cycle, donc pour moi, c'est même pas la peine. Mm-hmm. Je crois pas où on peut aller avec ça. Et M. Retailleau, c'est pareil, c'est un peu l'ancien monde. Je le trouve un peu en manque de charisme, même s'il a des bonnes idées, hein, je suis pas. Même quitte à choisir sur les deux, je choisirais M. Retailleau. Mais je pense qu'on ne va pas gagner avec ça. Voilà. Contrairement à ce que dit M. Devilliers.
Donc ni l'un ni l'autre, vous dites.
Je pense que non, il nous faut des nouvelles têtes à droite.
Je pense effectivement, d'un seul mot, Pierre.
Je dis, il nous faut des libéraux et des nouveaux.
D'un tout petit mot, Pierre. Merci pour votre gentillesse. Mais je pense, contrairement à ce que vous venez de dire, que si Édouard Philippe ou si Bruno Retailleau sont présents l'un ou l'autre, donc au second tour, ils gagneront l'élection présidentielle.
Oui, mais quand même.
Le problème, c'est d'être au second tour.
Ouais. Non, mais Pierre a raison. Pierre a raison.
Je suis désolé, Monsieur Devilliers, on n'y est pas du tout. Franchement, ça donne envie à personne.
Mais c'est clair.
Peut-être que les plus de 50, en effet.
Mais c'est les plus de 50 qui font l'élection. Hein. Je vous le dis tout de suite.
Pierre, il a peut-être pas.
Attendez la campagne quand même. On n'a même pas commencé.
Non, mais Pierre.
Abel, Retailleau ou Édouard Philippe, le meilleur candidat à droite.
Faut plutôt poser la question le moins pire. Retailleau, on dirait le président de ma convention obsèque, en fait. C'est-à-dire qu'il a, il a un profil qui est complètement dépassé. Quand tu l'écoutes parler, il ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes. Il se revendique gaulliste. Mais paradoxalement, c'est lui qui se rapprocherait le plus de l'esprit gaulliste très cher à Emmanuel. Édouard Philippe, lui, c'est l'usurpateur, en fait, parce qu'il n'est plus de droite, c'est un centriste. Mais paradoxalement, c'est lui qui peut plus rassembler l'électorat centre-droit, ira plus vers Édouard Philippe vers Bruno Retailleau. Donc la réalité,
mais
c'est qu'il
peut récupérer des voix chez Bardella, parce qu'en fait...
Non, Bardella, c'est mort, faut arrêter de courir après les électeurs du RN.
Oui, mais si tu n'arrives pas à séduire
certains électeurs du RN qui ont quitté les LR et qui tu n'es pas au second tour. Je veux dire, la clé du deuxième tour pour un candidat de droite, c'est de siphonner Bardella. C'est ce qu'avait très bien réussi à faire Nicolas Sarkozy en 2007.
Mais oui, mais
Jean-Marie Le Pen a fait 10%, Nicolas Sarkozy avait un contexte bon score de premier tour.
Le même. Je vais avancer.
Oui, mais c'est le contexte n'est pas le même, mais le schéma tactique est le même.
Mais l'électeur qui veut voter Rassemblement National, ça y est, c'est fini. Mais c'est pas Retailleau, regardez-le.
Le RN
sera au second tour.
La campagne n'a pas commencé. Les attaques contre M. Bardella n'ont pas commencé sur son âge, son profil, sa situation personnelle aussi, avec une première dame qui aurait 20 ans. Il y a un certain nombre de facteurs dans l'élection.
Il est obsédé par la première dame.
Barbara,
merci
à
Pierre d'avoir été avec nous. Il a dit ni l'un ni l'autre avant d'écouter Grégoire au 32-16.
Non, je peux proposer une autre tactique aussi. Mais excusez-moi, je pense déjà que M. Philippe et M. Retailleau ont été frappés de la même malédiction qui s'appelle Emmanuel Macron. Premier ministre, ministre. Ah oui. Donc les deux ont été touchés par le macronisme et c'est pas forcément.
On peut pas dire Retailleau est un macroniste.
C'est pas une bénédiction. Oui, mais justement.
Soyons, on est allé travailler pour Macron.
Et ben voilà. Mais tous les deux ont quand même été des ministres. Pas n'importe lequel, ouais. Premier ministre et ministre d'Emmanuel Macron. Ouais. Monsieur Philippe s'en est moins bien sorti parce qu'effectivement, d'abord, Monsieur Philippe était un juppéiste. Donc franchement, Juppé, Macron, c'est la même tambouille. Non, hein, c'est,
il a trahi.
C'est la mollesse, c'est le mou centre-droit. Donc de toute façon, on n'est pas étonné. Monsieur Retailleau s'en est quand même un petit peu mieux sorti de cette malédiction macroniste parce qu'il est parti en colère, en tapant du pied, en disant « c'était pas bien, je suis pas content », etc. Mais enfin, t'es quand même resté ministre.
Ça s'est pas passé donc, comme ça. Il devait rester au gouvernement, il est parti parce qu'il y avait Bruno Le Maire.
C'était plutôt le prétexte parce qu'il avait quand même sa stratégie de candidature. Bon, c'est bien tombé, on va dire. Maintenant, la vraie stratégie, moi je pense que LR ou la droite n'est hélas pas en situation du fait de ses propres divisions et de son impossibilité à se mettre d'accord sur un vrai programme de droite. La droite n'est même pas en mesure d'espérer aller au second tour. Ce qui fait que, à mon sens, la stratégie du candidat de droite, qui pour moi est Monsieur Retailleau, doit être plutôt la stratégie du deuxième tour. C'est-à-dire comment faire pour que au deuxième tour, il puisse y avoir la participation réelle, effective, et qui puisse donner aussi une meilleure ligne de conduite, notamment sur la question économique, à un éventuel président de la République qui s'appellerait Jordan Bardella, qui, selon moi, n'a absolument pas l'expérience pour diriger ce pays, ni d'ailleurs les troupes pour le faire. Donc, il faut que Retailleau soit là comme une espèce d'armée de deuxième ligne, et c'est ça qu'il doit préparer parce que la droite ne peut pas espérer gagner pour arriver au second tour. C'est
un petit correctif à ce que vient de dire Barbara. Tu dis la droite est trop désunie, elle peut pas présenter le programme. Attention, tu oublies le fait qu'un candidat ensuite parle en son nom et à son programme personnel présidentiel. Ce sera le cas de Retailleau, ce sera le cas d'Edouard Philippe. Dans la difficulté, pour tout de même rebondir sur ton propos, la difficulté objective, elle va être ensuite, s'il y a un départage donc par les sondages et la volonté de ne pas perdre l'élection en maintenant des candidatures jusqu'au bout, la difficulté, elle va être de rendre compatible, de croiser à minima les programmes pour faire une candidature unique et donc aller au second tour et l'emporter.
Et bien là, ce sera l'échec cuisant, parce que si c'est la réunion de tous les anciens ministres macronistes, je peux te dire, oubliez bagage.
Oui. Mais tous les seconds tours et tous les présidents élus de la 5e République, c'est forcément une réunion.
On a Grégoire qui va en parler, il est dans le Nord. Bonjour Grégoire.
Bonjour les grandes gueules.
Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez entendu Pierre, lui d'ici, ni l'un ni l'autre. Et vous Grégoire, plutôt Retailleau ou Philippe? Alors dites-moi, pour représenter la droite traditionnelle.
Eh ben moi je suis désolé, je vais rester dans la même lignée, ni l'un ni l'autre également.
Voilà.
Ils ont pas compris à droite qu'il fallait se mettre autour d'une table et désigner un seul candidat. Ils ont toujours pas compris, ils sont en train d'ouvrir en fait un boulevard au Rassemblement National. J'entendais sur votre antenne hein, l'autre jour Bruno Retailleau, discours où il se dédouane, il se prétend seul candidat à droite, sauf qu'il y a quand même du David Lisnard, du Xavier Bertrand également qui sont
c'est
là.
C'est vrai.
Et tant qu'il se la joue
Enfin, c'est lui qui a été désigné chez les LR. David Lisnard n'est plus LR, mais Xavier Bertrand, il est toujours LR, donc il doit se plier au choix du parti quand même.
Oui, avec des pipés aussi.
Le problème, c'est que le LR ne représente plus rien, donc en fait, s'ils se mettent pas d'accord, ça représente quoi les LR aujourd'hui? Alors bien sûr, il a été élu par les LR, mais la droite, la grande droite, s'ils veulent avoir une chance...
C'est plus que c'était, c'est sûr.
C'est plus que c'était, donc il faut se réunir autour d'une table, même David
Lisnard. Oui, mais Lisnard, voyez... Oui, mais Grégoire, je suis pas d'accord avec ce que dit Barbara. Moi, je mets pas dans le même bateau macroniste Édouard Philippe et Bruno Retailleau. Édouard Philippe, il faut quand même rappeler un peu l'histoire politique. Édouard Philippe, il a trahi son camp. Il a quitté Fillon pour rejoindre Macron parce qu'il voyait que Fillon allait perdre. Il s'est vendu, entre guillemets, à Macron. Il est devenu son premier ministre et ça tombe qu'il a été bien récompensé. Bruno Retailleau, c'est pas du tout la même chose. On est post-dissolution. Bruno Retailleau, c'était Lucie Castet qui devait aller à Matignon et Bruno Retailleau dit non, il dit à ce moment-là, non, on ne peut pas laisser la gauche aller à Matignon.
Pour la
non,
la
non, il ne s'est pas sacrifié. Oui. C'est ouais, bien sûr qu'il voyait personnel. Mais il était en cohabitation avec Macron, je suis désolé, oui. Sur l'Algérie, etc.
Olivier,
il
était pas Retailleau, c'est la prostitution politique. Non, tu ne peux pas non, critiquer, non, tu ne peux pas critiquer quelqu'un. Non, aujourd'hui, les électeurs n'acceptent plus le fait.
C'était plus une cohabitation.
C'est comme Darmanin ou autre, ils ont tous dit que Macron, c'était une étoile filante, que Macron, c'était un petit.
Mais ça, c'était avant.
Mais non, non, non. Mais oui, mais c'était avant, mais ils sont quand même.
Retailleau n'a jamais dit du bien de Macron, mais même oui, quand il était ministre.
Mais c'est pire. Mais oui, mais non. Quand il était ministre.
Mais il a quand même accepté d'être son ministre.
Mais oui, mais le fait qu'il a accepté. Quand tu es ministre de quelqu'un,
et parce que
tu es soumis, tu es son vassal, je suis désolé. Donc Retailleau, c'est la prostitution politique. Il n'a aucune légitimité.
Tu
retires à ton expertise de pédocriminalité. Alors, j'ajoute un mot à l'adresse de notre auditeur et dans la conversation qui est nôtre. Il y a quelque chose qu'on oublie complètement. C'est que tout le monde peut dire oui, moi je souhaite être candidat, j'ai des idées, mm-hmm. Mais il y a le barrage des 500 signatures.
Je suis d'accord
avec
toi.
Qui est un vrai filtre extrêmement difficile.
Bah, les deux les ont.
Que même Jean-Marie Le Pen avait beaucoup de mal à avoir les 500 signatures. J'ai un frère qui a été candidat deux fois à l'élection présidentielle, je peux en parler. En 95 et en 2007, il avait un mouvement, il avait un soutien, il avait fait 13% aux élections européennes, etc. Mais la collecte des 500 signatures, c'est un travail difficile.
Alors, parce qu'il y a les promesses.
Il y a les promesses de signatures qui étaient une première étape. Il y a une grosse déperdition de l'ordre de 25% dans la confirmation des signatures qui sont rendues publiques.
C'est pour ça que Dupont-Aignan ne sera pas candidat.
Donc voilà. Alors, Dupont-Aignan les a eu quand même auparavant. Est-ce qu'il les aura encore?
Oui,
mais
aura
David Lisnard, même Monsieur Bertrand, c'est pas du tout facile d'avoir les 500 signatures.
On fait un débat, les candidats de droite. Excusez-moi, j'ai cru comprendre la semaine dernière qu'il y avait déjà quasiment un accord entre Monsieur Philippe et Monsieur Attal. Alors, faut savoir. Non, mais c'est quoi cette droite auberge espagnole?
C'est donc
bien. Eh ben, c'est bien ce que je dis. C'est le macronisme. Alors, on va avoir une reconversion de tous les macronistes qui vont nous dire. Alors oui, on fera le bilan, hein, parce que bon, tout n'était pas bien avec Emmanuel Macron. Donc, ils vont quand même un peu lui taper dessus pour dire que on fait un peu le bilan. Mais au final, on aura les mêmes. On commence
Barbara,
et en plus, ils ont mis tous leurs pions dans toutes les institutions.
Barbara,
donc, excuse-moi, Retailleau n'a aucune raison d'aller là-dedans.
Mais
je répète toujours la même chose parce que c'est tout.
Le vrai rendez-vous de l'élection présidentielle, c'est au soir du second tour, ou plutôt la veille du second tour. Est-ce que les Français vont en majorité pour, laisse-moi terminer, pour renverser la table avec un président de 30 ans et une compagne de 20 ans, ou qui sont un peu plus raisonnables et qui disent, faisons gaffe quand même un peu.
Emmanuel, toi qui as connu la grande droite, comment tu peux être aussi naïf et donner un brin d'espoir au président de la convention obsèque? Tu sais très bien qu'il n'a aucune
chance. N'a pas commencé.
Tu as une expérience politique. Tu as une expérience politique quand même. Tu sais voir les choses de loin. Tu sais très bien que Retailleau ne sera pas président de la République. Parce que déjà, la moitié de son électorat est parti au Rassemblement National.
Personne ne croyait en Macron. Personne ne croyait en Hollande. L'élection présidentielle maintenant est devenue quand même assez marketing. Les choses se déroulent de manière surprenante. Et laisse-moi te dire,
au niveau du marketing, tu penses que Retailleau est
le
plus
programme présidentiel
Philippe.
Des quand candidats même, n'est pas même. Connu. Bruno Retailleau a un atout.
Façon,
Bruno Retailleau a un atout, c'est que c'est quelqu'un de méthodique, de technique,
sûrement.
Qui connaît les dossiers, qui ne vend pas du rêve. Parce que le RN propose 80 milliards de dépenses en plus,
Grégoire,
et 3 milliards d'économies. Est-ce que les Français vont valider ça?
Peut-être que oui. Grégoire d'avoir été avec nous, et vous savez qu'une campagne électorale, c'est aussi une affaire de dynamique. Rendez-vous dans les sondages et il y aura forcément un deal. À un moment, on dira il y en a un qui est pour l'Élysée et l'autre qui sera pour Matignon.
Là où Barbara a raison. Oui, mais Barbara a raison. Je ne crois pas du tout au deal qui irait de Gabriel Attal à Bruno Retailleau en passant par Édouard
Philippe. Oui, mais Attal, non.
Mais je pense que le deal Attal-Philippe est un deal perdant parce que ce sera le deal des macronistes. Et je pense que les Français
les anciens
ne
voudront
pas
un macroniste. Alors, Retailleau ou Philippe, lequel est le meilleur? On va regarder vite fait ce que vous en pensez. Vous mettez Retailleau à 84%. Allez, suite des GG dans un instant direct sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.